Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien ?
Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement.
Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
J'avais un grand-oncle maternel à Montargis, si vous voulez tout savoir.
NUPES, cette pétaudière, en réalité...
How dare you ? You have stolen my dreams.
J'entends votre émotion, Dolores.
Bonjour, Madame le ministre. Quel est le climat en arrivant à Kiev ?
Magnifique. Il fait beau.
Nous sommes en guerre.
On ne peut pas avoir confiance en des gens qui ont des casseroles. C'est même plus des casseroles. C'est une cuisine complète au cul.
Non, pas Berkov.
C'est quoi votre problème, quoi ?
Eh oui, c'est quoi leur problème de ne pas entendre Berkov ? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, nous, on entend beaucoup de choses. Hein. On entend siffler le train des négociations. Hein. Qui va aller avec qui ? Qui va gouverner avec qui ? Hein. Et oui, la démocratie est revenue. Ah, étonnant, mais il est revenu. Et nous allons parler de, effectivement, voilà, l'Ukraine et la Moldavie sont admises au statut de candidats à entrer dans l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, évidemment, on sait que c'est pas pour demain, mais quand même, il y a un acte. On en va parler avec Alexandre Delval, géopolitologue, et qui a écrit de nombreux livres sur la question, mais surtout la mondialisation dangereuse d'édition de l'Artilleur, on va en parler, et beaucoup de choses à dire. Ensuite, nous allons parler aussi des élèves du bac qui insultent l'écrivaine Sylvie Germain, qui a fait un texte trop dur, trop compliqué pour le bac. Pour le bac, je dis bien, pour le bac littéraire. Ah oui, mais attendez, c'est trop dur tout ça. Et on va recevoir aussi Frédéric Rouvillois. Et si on introduisait la proportionnelle, oui, la vraie proportionnelle, comme les Français l'ont fait à l'insu de leur plein gré. Et enfin, de 13 à 14 heures, dans la culture dans tous les états, avec Céline Alonso, nous recevons Vladimir Troupelin. On va parler des agents secrets du général de Gaulle, de cette extraordinaire saga entre 40-44 des agents de la France libre qui ont été vraiment les créateurs du renseignement moderne pendant la Résistance. Une émission qui se s'avère passionnante.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, on l'a appris hier, les 27 États membres de l'Union européenne accordent officiellement à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'ils vont entrer dès demain dans cette Union européenne, qui sera à ce moment-là 29. Ça va prendre quelques mois, voire quelques années. Mais, le processus, comme disait le général, est entamé. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi, effectivement, cela amène ? On en parle avec Alexandre Delval tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Des nôtres, évidemment. Non, c'est pas pour boire son verre, mais c'est pour entrer sur la merveilleuse, la sublime et l'érotique férule de Ursula von der Leyen. Vous imaginez être sous le règne d'Ursula von der Leyen ? Ça change tout, oui. On est européen. Alors, on sera peut-être 29, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire en ce moment où tout est en train de basculer à l'est comme à l'ouest de la planète ? On en parle. Avec Alexandre Delval, effectivement, géopolitologue, écrivain, il a écrit une vingtaine de livres. On en parle tout de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, excusez-moi, j'étais en train de me dire qu'il y avait une autre virgule. Alexandre Delval, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, l'Ukraine est admise donc à faire candidature, officiellement.
Alors, ça veut dire qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'émotion. Aujourd'hui, personne n'ose dire non à Monsieur Zelensky. À part, d'ailleurs, et je ne suis pas du tout un partisan de son mouvement, mais à part un certain Mélenchon qui disait, à juste titre, il y a un mois, il ne faut pas non plus que Monsieur Zelensky nous dise ce que nous devons faire, avec qui nous devons négocier, avoir des relations économiques, etc. Et je pense qu'il avait eu raison. Mais aujourd'hui, l'émotion fait que Zelensky est en direct avec un parlement d'un pays européen, il dit « faites ci », personne n'ose dire non, tout le monde se lève
en et applaudit. En direct avec le Sénat américain, en direct avec le monde entier.
Et tout le monde à chaque fois fait la standing ovation, etc. Alors, ça n'a rien de mal d'un point de vue moral, un peu une morale, bien sûr, c'est un pays agressé, il faut le défendre, etc.
Mais de qui là, est l'agresseur, qui est l'agressé.
Mais de là à violer toutes les règles et les processus européens, ça c'est un autre sujet. J'en parlais avec un très haut fonctionnaire du Conseil européen, il me disait en effet, nous sommes en train d'être tentés de rompre avec notre normativité qui d'habitude est très rigide et on est en train de s'acheminer vers une sorte de procédure accélérée, je pense que ça ne se fera pas. Mais aujourd'hui, les hauts fonctionnaires européens et von der Leyen voudraient faire une procédure accélérée pour que ce pays entre, même si en fait il ne respecte pas toutes les normes européennes.
En quoi il viole les lois ? Parce que vous avez dit qu'il est en train de violer toutes les lois.
Premièrement, comme l'a dit la Commission européenne elle-même, le statut des minorités, les minorités hongroises et ne parlons pas des Russes, sont maltraitées. Et quoi que l'on pense des Russes, il faut distinguer les russophones et les Russes de Russie, enfin le gouvernement. Ouais. Bien entendu, l'état de droit en général, la corruption, Transparency International et la Commission européenne ont dit que c'était un des pays les plus
et
corrompus.
Et les Pandora Papers avec Zelensky.
Absolument, un des pays les plus corrompus au monde, a commencé d'ailleurs effectivement par son président. Alors certes, il ne faut pas taper sur l'ambulance. C'est un pays agressé, on le comprend. Mais tout de même, avec un président corrompu. Et avec un des oligarques qui l'ont mis au pouvoir, des oligarques qui financent un certain nombre de partis politiques depuis le début. Toute l'opposition russe qui a été complètement muselée récemment et son chef emprisonné. Et donc, bien sûr, il y a aussi toutes les règles d'économie de marché qui sont violées par l'oligarchie.
Et les partis politiques d'opposition, je
absolument,
crois.
Absolument, ce que je venais de dire. L'ancien parti des régions, son chef Medvedchuk a été emprisonné, il pourrait être tué à chaque instant. Et donc il y a quand même un certain nombre de problèmes majeurs et qui sont d'ailleurs dans les critères de Copenhague. Pour rentrer dans l'Union européenne, normalement, il ne faut pas uniquement être candidat. On est candidat, l'incandidature est éventuellement acceptée, ce qui ne engage à rien. Et le pays doit se conformer aux critères de Copenhague, qu'on vient de dire à l'instant, des critères de droit généraux, respect des normes, respect de la démocratie, économie de marché, minorité, etc. Il y a aussi la capacité de l'Union européenne à intégrer un pays qui normalement est soulevé. Or, avant cette guerre, il était normal de dire dans les milieux européens qu'on n'avait pas la capacité d'intégrer l'Ukraine. Tout à coup, on l'a. Parce que l'émotion fait qu'on n'ose même plus dire ce que l'on disait il y a à peu près 4 mois. Oui. Et après les critères de Copenhague, après de nombreuses années, on entame les négociations en vue de l'adhésion.
Et ça prend combien de temps, normalement ?
La Turquie, ça fait depuis 99 qu'elle a été acceptée comme candidat, 2005 ouverture des négociations avec la Turquie et nous sommes en 2022 et on en est au point mort depuis 2019 sur 35 chapitres de la coquille communautaire, on en a ouvert à peine 8 et on en a refermé un.
Enfin, donc ça veut dire que ça peut durer...
Ça peut durer très longtemps, ça peut même être suspendu, on peut même suspendre le processus d'ouverture des négociations qui font qu'on ouvre et on referme les 35 chapitres, c'est-à-dire les normes qu'on appelle 35 chapitres, toutes les normes depuis les années 50 européennes, eh bien on peut très bien suspendre, parce que si le pays n'est pas coopératif et qu'il ne se conforme pas aux droits et aux normes européennes, à un moment, eh bien on peut suspendre ce qui pend au nez de la Turquie. Donc en fait, on est en train de nous dire bientôt l'Ukraine dans l'Union européenne.
Oui, parce que ça se passe comme ça.
Les vrais connaisseurs savent que ça ne se passe pas comme ça, sauf ce que disait ce haut fonctionnaire du Conseil européen, sauf si on commence à violer nos propres règles, mais ce serait un effet boîte de Pandore incontrôlable, parce que la Géorgie est jalouse. Tant mieux pour l'Ukraine et la Moldavie, mais la Géorgie est très jalouse. Le Kosovo n'a pas encore émis sa candidature officielle, mais il le voudrait, et il y a plein de pays qui ne sont pas admis comme candidats, qui vont dire, mais nous, est-ce qu'on est vraiment pire ?
Et pourquoi pas nous ?
Est-ce qu'on est pire que l'Ukraine, un des pays les plus corrompus au monde, où il y avait autant d'oligarques proportionnellement qu'en Russie ? Est-ce qu'on est pire que l'Ukraine ? Est-ce qu'on est plus en guerre que l'Ukraine ? On ne peut pas faire mieux ou pire que l'Ukraine en ce moment. Normalement aussi, on n'intègre pas un pays lorsqu'il est en guerre. Chypre a été intégré, toute l'île de Chypre, alors qu'on avait justement fait tout un processus pour essayer de ce fameux référendum, pour essayer de faire en sorte que les Grecs et les Turcs de Chypre s'entendent. Oui. Le référendum avait été rejeté, mais on avait intégré les Chypres parce qu'ils n'étaient pas en état de guerre. Il y avait un statut
quo. Et là, en revanche, évidemment, il y a la guerre. Alors, Alexandre Delval, dans votre plus récent livre, on vous avait reçu pour ça, et je le recommande aux éditeurs du Sud Radio, la mondialisation dangereuse. Vous dites que plus on va vers l'Est, plus on va vers la guerre.
Ah ben bien sûr.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est un pas, oui, un pays en guerre, c'est-à-dire expliquer.
Eh bien, déjà, la grande dérive mondialiste, universaliste, extensionniste de l'Union européenne, c'est 1999. C'est également le sommet de l'OTAN, 1999, et le déclenchement de la guerre au Kosovo, où là, l'OTAN et l'Union européenne sont partie prenante d'une guerre qui viole le droit international, qui est refusée, cette guerre est
ils
totalement refusée.
Ils sont partis en guerre, l'OTAN a bombardé sans l'aval de l'ONU.
On a bombardé sans l'aval de l'ONU. Les plus grandes armées du monde ont bombardé un pays, la Serbie et une fédération, l'ex-Yougoslavie. La véritable raison, c'est parce que ça permettait aux Russes d'avoir un accès aux mers chaudes. Et l'OTAN, d'ailleurs, a fait une base. Les Américains ont fait une base de Blondstil juste après, deux jours après la fin des hostilités. On commençait déjà la construction de cette base. Donc on voit bien que l'Union européenne et l'OTAN sont dans une dérive extensionniste, atlantiste et même néo-impérialiste qui est en partie... Ça n'enlève pas les responsabilités des Russes, mais est à l'origine de la réaction russe. Si vous voulez, c'est un choc entre deux empires. Un empire cognitif de valeurs qui se dit bien pensant, et donc forcément, son extension est forcément bonne, l'Occident. Mais du point de vue de l'autre, comme dit Max Weber, en sociologie compréhensive, il ne faut pas uniquement dans la morale, il faut être dans le non-jugement, voir comment l'autre le perçoit. Les Chinois, pour les Russes, pour les Kazakhs, quand l'Occident progresse, même au nom de belles idées vers l'Est, c'est empiéter sur leur jardin. C'est comme si dans votre jardin, quelqu'un arrive et s'installe. Si vous êtes un peu irascible, vous n'allez pas le prendre de manière très gentille. Et ça peut même terminer en violence. Ça ne justifie pas la violence qui en suit, mais bien ça sûr. Peut la provoquer. Et comme dit Max Weber aussi, l'éthique de responsabilité, c'est important. L'éthique de conviction, c'est faire les choses par principe. C'est ça l'Europe en ce moment. L'éthique de responsabilité, c'est quelles sont les conséquences de mes actes, et notamment de mon extension. Or, l'ouverture, la porte ouverte de l'OTAN depuis 1999 à plein de pays, et bientôt la Finlande, etc., et la porte ouverte de l'Union européenne à tout le monde, c'est forcément vers la guerre, puisque nous allons vers des pays qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas pacifiés, ils ne sont pas bisounoursistes, ils ne sont pas buonistes, comme on dit en Italie, ils sont très nationalistes, que ce soit les Hongrois, les Romains, moi je suis allé dans tous ces pays, il n'y a pas que la Russie, ils sont tous ultra-nationalistes, ils ont plein de rancunes, et le communisme les a congelés dans une mentalité, j'allais dire, pré-libérale. Ils sont dans une mentalité...
Ils ne sont pas dans le même mental
minimum illibéral. Ils sont tous comme Orban, sauf qu'on parle que d'Orban, parce que lui, il est le moins anti-russe de ces pays qui ont été... D'ailleurs, la plupart ont été acquis, ont été intégrés dans l'Union européenne en 2004, à l'époque où la Grande-Bretagne présidait l'Union européenne, parce que la Bretagne avait un intérêt à diluer l'Europe.
C'est paradoxal, la Grande-Bretagne est partie, mais les autres sont là.
La Grande-Bretagne est intelligente. Avant de partir, elle a foutu le boxon dans l'Union européenne en procédant au plus grand élargissement lorsqu'elle avait l'agenda en 2004. Cette extension vers l'Est et cet élargissement se fait au détriment de l'approfondissement. C'est le fameux débat. Les vrais constructeurs de l'Europe, comme Giscard, voulaient freiner l'élargissement au profit de l'approfondissement. Il est certain que quand on aura l'Albanie, le Kosovo, la Macédoine et tous ces pays de l'Est ultra-conflictuels, ne parlons pas de l'ex-Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine avec les Croates, les Serbes qui ne peuvent pas s'entendre avec les musulmans, quand on aura tous ces pays dans l'Union européenne, on aura une poudrière, on aura intégré l'équivalent du Moyen-Orient, mais en Europe.
Non, mais déjà, aujourd'hui, on le voit très bien avec les différence avec la production, les centrales à charbon des uns, les achats de F-25 des autres, on voit déjà que l'Europe ne peut pas dire que ça marche d'un seul pas et ça ne parle pas d'une seule voix. Donc pour vous, ce pas en avant, même si c'est un pas en avant, admission de la candidature de l'Ukraine, c'est quand même générateur de désordre futur.
C'est générateur de désordre pour une raison très simple. L'Union européenne n'est pas une magie qui fabrique la paix dès lors qu'on s'ouvre à elle ou qu'elle s'ouvre à d'autres. C'est l'inverse. L'Union européenne intègre de manière assez pacifique des pays lorsqu'ils ont renoncé à la dictature. La Grèce des colonels, l'Espagne de Franco sont entrés dans l'Union européenne lorsqu'ils avaient renoncé et à la dictature et à la guerre. C'est des pays pacifiés. Donc l'Europe est pacifique parce qu'elle intègre des pays pacifiés qui sont devenus gentils. Tandis que ces pays ne vont pas devenir tout à coup hyper pacifiques parce qu'ils vont rentrer dans l'Union européenne, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils seront déjà pacifiés qu'ils rentreront dans l'Union européenne de manière pacifique. Donc on intègre des pays en guerre. L'Ukraine, alors là, il n'y a pas de doute. Pour les pays d'ex-Yougoslavie, mais l'Ukraine, on intègre un pays en guerre dont le voisin a dit que du vivant de M. Poutine, alors nous on rêve de l'éliminer, alors ils peuvent toujours rêver, tant mieux si...
Mais il peut y avoir un autre Poutine qui succède à Poutine.
Après on peut rêver de plein de choses, aussi d'éliminer Xi Jinping, mais en tout cas ce sont des politiques velléitaires. Ce que l'on sait, c'est que l'adhésion à l'OTAN de pays du Nord ou de l'Est, l'adhésion à l'Union européenne, c'est la même chose pour les Russes, puisque l'Union européenne a comme structure de défense l'OTAN. Donc, éthique de responsabilité, ok, on fait rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, mais il faut être conséquent. Il faut connaître les conséquences. Ça veut dire encore plus de casus belli avec la Russie. Alors, on nous répond, mais on est en train de la sécher. C'est la théorie de la Rand Corporation. Vous savez, les Américains ont théorisé ça. C'est le blood setting. On les laisse faire couler. On va épuiser la Russie. Aujourd'hui, l'Occident croit que la Russie sera à genoux dans un an. Et donc, effectivement, on pourra aller dans son jardin.
Alexandre Delval, on voit déjà ce qui se passe avec le rouble et on voit ce qui se passe en économie.
Donc, le rouble, c'est jamais aussi bien porté depuis qu'il est indexé sur l'or et sur les énergies.
Exactement. En tout cas, Alexandre Delval, vous le racontez, je renvoie à votre livre « La mondialisation dangereuse ». C'est vrai qu'il faut quand même prendre du champ, prendre de la distance et regarder les choses. Et comme vous l'avez dit, Alexandre Delval, très bien, éthique de conviction et morale, très bien, indignation, mais éthique de responsabilité, c'est au moins aussi important.
J'invite tout le monde à relire Max Weber. Finalement, ça permet même de comprendre la géopolitique.
Merci beaucoup Alexandre Delval, géopolitologue et écrivain, co-auteur du livre La mondialisation dangereuse aux éditions de l'Artière. Restez avec nous, juste après la pub, André Bercoff parlera du torrent d'insultes que Sylvie Germain a reçu, cette écrivaine dont un extrait de son livre a été utilisé pour le commentaire de texte du bac français. Et il y aura bien évidemment le face-à-face, ce sera avec Frédéric Rouvillois, essayiste, et on parlera de la proportionnelle.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Eh bien, je ne suis pas le seul, hein, je le dis toujours. En ce moment, il y a de quoi être dans tous ses états. Et quelqu'un qui est dans tous ses états, c'est l'écrivaine Sylvie Germain. Pourquoi ? Parce qu'elle a écrit un texte en français, un texte littéraire. Non, mais ça va pas. À présenter au bac, à présenter aux étudiants du bac. Un texte littéraire à présenter aux étudiants du bac littéraire. Non, mais où on est où, là? On est où? On en parle.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour.
Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne comprends vraiment pas. Y'a quelque chose qui tourne pas rond.
C'est vrai. Jacques Pell, si vous saviez le nombre de choses qui ne tournent pas rond en ce moment, vous seriez esbaudi. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. L'écrivaine Sylvie Germain, ce texte était donné pour l'écrit du bac de français, inspiré de son roman Jour de colère, écrit en 1989. Alors, c'est un texte du 29 de ligne qui décrit 9 frères, sorte d'hommes des bois élevés dans les forêts du Morvan à une période passée. Alors, il s'agissait pour les élèves d'interroger la manière dont ces 9 individus donc, ont été façonnés par l'environnement dans lequel ils ont évolué. Donc, ils étaient dans la forêt, perdus dans la forêt, etc. Eh bien, les candidats ont dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que 9 personnes dans la forêt perdues? C'est pas possible, c'est incompréhensible. Et ils devaient disséquer cet extrait. Et alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Eh bien, sur Twitter, sur Instagram ou sur TikTok, eh bien, la meute se déchaîne. Quelques commentaires de ces jeunes candidats, je rappelle, au bac littéraire, et non pas au certificat d'études ou au passage de la maternelle. Non, non. Sylvie, sache que des millions de personnes te détestent. Ils sont des millions. Sylvie, j'ai fait du hors-sujet par ta faute. Ton texte, il tournait en rond. C'est magnifique, ça. J'espère que tu as enfin de vie, Sylvie, parce que je ne vais pas avoir la moyenne, Sylvie. Tu t'imagines? Non, mais j'imite un peu le... Oh, et alors, dernière chose, évidemment, les menaces, parce que... on va se donner rendez-vous, Sylvie, dans la forêt, nous aussi. Hein, et tu vas voir... Quoi? Viol au-dessus d'un nid de cocu? Non, je vous en prie. Et la réaction de Sylvie Germain, c'était quoi? Eh ben... Je suis plutôt inquiète, dit Sylvie Germain, du symptôme que cela révèle. C'est grave que des élèves qui arrivent vers la fin de leur scolarité puissent montrer autant d'immaturité et de haine de la langue, de l'effort de réflexion, autant que d'imagination et également si peu de curiosité, d'ouverture d'esprit. Ils veulent des diplômes sans aucun effort, se clament victimes pour un oui et pour un non, et désignent comme persécuteurs ceux-là même qu'ils injurient et menacent. Quels adultes vont-ils devenir? Tout cela est aussi absurde qu'affligeant. Je suis extrêmement content que Sylvie Germain découvre l'eau chaude. Bienvenue dans le monde réel, chère Sylvie Germain. De temps en temps, il n'est pas important de quitter son écritoire et d'aller voir ce qui se passe dans le monde. Oui, on peut le regretter, mais c'est comme ça.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et le face-à-face, aujourd'hui, nous accueillons en studio Frédéric Rouvillois, essayiste, romancier et juriste français. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors, monsieur Rouvillois, alors vous, évidemment, vous voulez compliquer la tâche du président Emmanuel Macron, qui est déjà confronté aux 12 travaux d'Hercule, et vous proposez, très intéressant, petit livre noir, Paris, aux éditions de la Nouvelle Librairie, La Proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple. Alors, on avait déjà parlé du référendum à plusieurs reprises, depuis les Gilets jaunes et bien avant, mais on sait très bien que depuis 2005, personne ne veut plus parler du référendum pour des raisons que l'on connaît et que l'on a déjà donné. Mais vous vous dites, et pourquoi pas la proportionnelle? Est-ce que déjà, justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Français, au deuxième tour des législatives, ont joué les Monsieur Jourdain de la proportionnelle en faisant ça sans le savoir? C'est pas ce que vous préconisez, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas eu un rééquilibrage, là?
Non, je crois que c'est un... qu'on en soit heureux ou pas, si vous voulez, mais c'est une sorte de miracle. Hein. C'est une chose qui, normalement, n'aurait pas dû arriver. Et ce qui caractérise les miracles, en général, c'est qu'ils ne se reproduisent pas, si vous voulez. C'est parce qu'on a 90 ou 89 députés d'un parti qui, jusqu'alors, était complètement ostracisé du fait du scrutin majoritaire, que la fois d'après, on va en avoir une centaine, ou on peut très bien revenir à beaucoup moins. Et vous avez bien vu, hein, au sein même des instances dirigeantes du Rassemblement National, ça a été une espèce de surprise tout à fait. Enfin voilà, personne ne s'y attendait. Il y a un côté miraculeux, un côté totalement inattendu. Et justement, l'un des intérêts de la proportionnelle. Alors d'abord, avec la proportionnelle, vous savez que le Rassemblement National n'aurait pas eu 89 ou 10, mais sans doute 120 ou 130
oui,
députés.
Oui, bon, ça, c'est le premier point. Mais justement, parlons de la proportionnelle. Alors. Effectivement, ce que vous dites, d'ailleurs, vous rappelez que De Gaulle n'était pas hostile.
Non.
Mais le problème de la proportionnelle, vous dites, écoutez, pourquoi, effectivement, on pourrait... Je veux dire, théoriquement, comme on dit, vous avez raison. Vous pouvez dire, après tout, le peuple est représenté, le peuple vote, qu'en fonction des pourcentages accordés à telle ou telle formation, à telle ou telle personne, eh bien, il est élu. Donc, vous êtes, vous, pour la proportionnelle intégrale, quelque part.
Écoutez, moi, quand j'ai faisais mes études de droit, on m'expliquait que c'était abominable, que c'était une chose atroce, qui empêcherait totalement le système de fonctionner, etc. etc. Et j'ai gobé ça comme n'importe quel étudiant, si vous voulez, sans m'apercevoir que les arguments qu'on me donnait, c'est des arguments qui étaient valables au moment où ils ont été mis en place, c'est-à-dire sous la Troisième République, à ouais. une époque où le Parlement est effectivement l'organe dominant et où il faut nécessairement, pour le coup, avoir des majorités relativement stables. Mmh. Mais que par contre, ces arguments n'étaient plus du tout recevables sous la Ve République, où, comme on le sait bien, là encore, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, c'est le président de la République qui est le centre du jeu. Et or, le président de la République, par définition, il n'est pas élu au scrutin proportionnel.
Alors, justement, mais on a fait tout ça, la Ve République et le système... Le général de Gaulle et Debré a été fait pour dire, écoutez, on ne peut pas rester avec la République des partis, avec ces majorités qui s'effilochent au bout de trois semaines, avec ces changements de gouvernement tous les deux mois, c'est plus possible. Alors là, c'était le scrutin majoritaire, effectivement, ce n'était pas la proportionnelle, mais donc il faut faire quelque chose de serré, il faut faire que les vis soient absolument, non seulement serrées, mais en place. Or, la proportionnelle, justement, là je vais jouer l'avocat du diable majoritaire. Regardez l'exemple d'Israël. L'exemple d'Israël qui pratique la proportionnelle intégrale. Et on pourrait dire, c'est vrai, démocratiquement, c'est l'idéal. Sauf que,
Qui décide en Israël des majorités? C'est le petit parti religieux qui fait pencher les majorités. Et donc, pratiquement, c'est eux là. Ce sont eux, c'est eux l'arbitre et ce sont eux les gouvernants.
Alors, l'exemple d'Israël est effectivement un exemple extraordinairement intéressant et que nous renvoie à la figure, oui, à chaque fois les partisans, évidemment, du scrutin majoritaire. Sauf que ce n'est pas un argument pertinent pour plusieurs raisons. D'abord, ouais, première raison, c'est que, en fait, le scrutin proportionnel a été établi en Israël à l'origine, en 1948, lors de la fondation de l'État d'Israël, parce qu'il fallait que toutes les différentes communautés puissent être plus ou moins représentées et se sentir finalement présentes et représentées à la Knesset. Bon. Et la conséquence, c'est qu'on a mis un seuil de représentation qui, à l'époque, était incroyablement bas, ouais, un seuil de 1%. Autrement dit, dès que vous aviez 1%, vous pouviez avoir des députés à Knesset. Alors, le seuil a remonté un petit peu. Maintenant, il est à, je crois, 3,25. Ce qui a d'ailleurs fait hurler en Israël certains, hein, qui sont partisans de la proportionnelle, en expliquant que certains partis, notamment les partis arabes, ne pouvaient plus être représentés parce qu'ils ont moins de ce chiffre.
Ouais, ouais.
Mais voilà. D'abord, c'est un cas de figure très particulier à cause de ce seuil historiquement bas.
Et deuxièmement,
parce que c'est la Knesset qui est quand même l'organe dominant, si vous voulez.
C'est pas le président israélien.
C'est pas le président israélien qui n'a quasiment aucun pouvoir. Absolument. Et le Premier ministre dépend directement de la majorité ou des majorités qui vont se constituer à la Knesset.
Alors,
le résultat, si vous voulez, le système israélien, ça nous rappelle un petit peu, à certains égards, le système français de la Troisième, où effectivement, c'est le Parlement qui gouverne. Si le Parlement, ou plutôt la Chambre des députés, n'est pas élu de manière à établir des majorités stables, on est un petit peu dans une situation difficile.
Alors revenons à la France. Pour vous, alors, revenons à la France, vous connaissez bien le système français, vous êtes professeur de droit, comment pourrait s'établir, sachant qu'il y a eu le système majoritaire aujourd'hui à deux tours, etc., comment aujourd'hui, vous seriez aux commandes, comment pourrait s'établir une proportionnelle à la française, disons ?
Alors, tout d'abord, sur un plan purement technique, rien de plus simple, puisque ça n'est pas le mode de scrutin ne figure pas dans la Constitution, donc il suffit d'une simple loi.
On n'a pas besoin de changer la Constitution.
Non, il suffit d'une loi pour le faire.
Bon, d'accord.
Ça, c'est pas très difficile. Et ensuite, effectivement, il faut choisir quelque chose qui soit un petit peu adapté à la situation française. Et donc, il faut un seuil relativement pas trop bas, si vous voulez. Un seuil de
vous diriez quoi, vous ?
Le seuil du 5%, 4 ou 5%.
Alors, ça veut dire qu'il y aurait, pour avoir un siège de député...
Pour avoir des sièges de député, oui, il faudrait effectivement dépasser, dans la circonscription donnée,
oui,
par exemple régionale, le niveau de 5%.
Voilà. Des inscrits.
Des votants.
Pas les inscrits. Des votants, inscrits, ce serait autre chose. Ils ont eu 10%.
Oui,
des
non,
inscrits,
évidemment. Ouais. Donc,
c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir 5% des votants et plus pour être admissible.
Voilà, exactement, c'est
d'accord.
Ça. Mais bon, ça veut dire que, grosso modo, des partis qui représentent vraiment quelque chose, normalement, sont dépassés
au-dessus de 5%.
Surtout que, en fait, si vous voulez, quand on en discute, là encore, à l'heure actuelle, on dit, vous voyez, tel parti, par exemple, le Reconquête, n'aurait pas dépassé les barres des 4%.
Ouais.
Sauf que, évidemment, on ne vote pas de la même manière...
au présidentiel,
quand on a un scrutin, ouais, quand on a, d'une part, mais aussi quand on a un scrutin majoritaire et quand on a un scrutin proportionnel, si vous voulez,
ouais,
on va adapter finalement son choix, son vote à ça.
C'est sûr. Et puis
donc,
les gens réagiront autrement et voteront autrement.
Exactement, c'est ça. Sachant que ça produira tel résultat, ils se décideront autrement.
Tout à fait. On se retrouve juste, Frédéric Rouvillois, avec une petite pause. Effectivement, pourquoi ne pas essayer la proportionnelle ?
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Ils s'appellent Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois. Ils veulent, les impudents, rendre la parole au peuple. Ça s'appelle la démocratie, mais enfin, franchement, il ne faut pas exagérer. Ils ont déjà écrit ensemble la question des parrainages, et Dieu sait, vous le savez, auditeur du Sud Radio, on en a parlé, la levée de l'anonymat, scandaleuse. Aujourd'hui, un livre sur la proportionnelle, et dans quelques mois, le référendum.
Alors, justement, depuis déjà longtemps, on a entendu, et vous le savez, depuis Gilbert Bécaud, que l'important, c'est la dose. Et on a parlé des doses de proportionnelles. Hein. Donc, oui, on va instituer. C'est vrai, tout le monde se rend compte quand même qu'il n'est pas normal qu'un parti qui fasse 11 millions de voix et 10 députés à l'Assemblée, c'était le cas du Front National, et puis beaucoup d'autres, enfin, je veux dire, que des gens qui ont un très, très, très peu de pourcentage de voix se retrouvent avec 50 députés, etc., etc. Enfin, bon, on connaît le secret du scrutin majoritaire. Mais alors, la dose de proportionnelle, ça a été très, très avancé, je crois, Frédéric Ouvrillois.
Oui, on a fait des petites recherches pour notre livre, pour savoir à partir de quand cette idée un peu saugrenue était arrivée sur le marché. Comme d'habitude, c'est François Mitterrand hein, qui va lancer la chose et qui va... Je crois que c'est dans une émission de télévision qui va inventer le verbe qui maintenant est systématiquement utilisé pour présenter la fameuse dose, hein, pas celle du vaccin, mais celle proportionnelle. Oui. C'est instillé, autrement dit, diffusé au goutte par goutte. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi au goutte par goutte, alors qu'on sait très bien qu'en réalité, il n'y a pas de problème avec la proportionnelle. Voilà, parce qu'on ne veut pas, en réalité, remettre en cause... remettre en cause les équilibres et surtout les avantages de certains grands partis qui bénéficient évidemment...
Puis l'argent qui touche avec chaque électeur.
Ouais. Et donc, voilà, instiller une dose proportionnelle, ce serait le moyen inventé par certains pour... une espèce d'alibi, quoi. On vous donne 5 députés et puis voilà, vous serez content. Même si, normalement, vous devriez en avoir 50. Dans le genre, 5, c'est mieux que rien.
Oui, c'est ça.
C'est exactement ce discours-là, est vraiment un discours d'une hypocrisie absolument invraisemblable, si vous voulez.
Oui, vous voulez dire, écoutez, mieux que c'est mieux que zéro, vous aurez 5 à 10 députés.
Soyez contents. Et toutes les propositions relativement récentes hein, autour de ça, enfin, notamment de gens de LR ou du PS, etc., c'était cette idée. Jospin aussi avait été un grand.
Mais comment vous expliquez, alors, Frédéric Ouvrillois, que même cette instillation, cette dose n'a jamais été faite, enfin jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, même Macron en a reparlé, il voulait le faire, mais ça n'a pas été fait.
Absolument, mais Macron a dit qu'il voulait le faire cette fois-ci, il avait déjà dit en 2017, François Hollande avant lui, etc. etc. Effectivement, il y a une espèce de culture du mensonge, de culture de l'hypocrisie autour de cette question de la proportionnelle et du mode de scrutin, qui est liée au fond, comme vous le disiez à l'instant, il y a des intérêts très forts, ceux des grands partis installés, qui n'ont pas du tout envie qu'on remette en cause leur domination et qu'on permette aux autres, c'est-à-dire en fait au peuple, de s'exprimer véritablement.
Oui, comme vous dites, que ce soit effectivement les parrainages, la proportionnelle. Mais alors, comment pourrait-on, est-ce qu'il faut une insurrection populaire et de nouveaux gilets jaunes pour faire pression, pour effectivement avancer dans cette proportionnelle ? Comment pourrait-on faire ?
Alors, concrètement. Tout à l'heure, concrètement, je pense qu'il faut se fixer l'idée et le cap d'une proportionnelle intégrale. Il faut que ce soit sur l'ensemble. Effectivement, pour poser la question tout à l'heure des modalités, je vous disais parler du seuil, il faut que ce soit dans des circonscriptions régionales, c'est le plus pertinent, une proportionnelle intégrale, c'est-à-dire que tous les sièges soient de députés, soient élus de cette manière-là.
Et c'est pas la majorité qui emporte le tout, quoi.
C'est pas la majorité qui emporte tout. Et alors, parmi les avantages également de la proportionnelle, c'est qu'au fond, on sait à quoi s'attendre. Si vous voulez, tout à l'heure, on parlait d'une espèce d'apax ou de miracle qu'il y a eu avec les 89 députés RN. C'est quelque chose qui, avec la proportionnelle, aurait très bien pu... Enfin, on aurait pu s'attendre, finalement, au résultat.
Et surtout, le miracle, c'est encore plus, je dirais, c'est la majorité relative. Depuis 2002 et 20 ans, depuis que les élections législatives suivent l'élection présidentielle, il n'y a plus jamais de majorité relative, majorité absolue. Suivez le président. Vous avez élu le président, suivez-le.
Alors, effectivement, avec la proportionnelle, on a des majorités relatives. Ça, c'est clair. Mais je pense, et je crois que beaucoup d'observateurs et de Français pensent comme moi, hein, que la majorité relative, c'est très bien. Ça permet effectivement une discussion en permanence. Ça permet d'éviter quelqu'un qui, comme notre bien-aimé président lors du précédent quinquennat, semblait aller à toute vitesse à l'aveuglette dans le chemin qu'il avait lui-même déterminé, sans
écouter. En fait, pas de contre-pouvoir.
Il n'y a pas de contre-pouvoir et voilà, on a effectivement un président qui peut faire un peu n'importe quoi avec la proportionnelle. On a effectivement des majorités relatives, mais voilà, des majorités qui permettent vraiment, effectivement, d'abord de refléter exactement l'opinion du pays, ce qui est quand même pas mal en démocratie, et d'autre part, qui permettent, au fond, voilà, un gouvernement peut-être plus modéré, plus réfléchi que celui qu'on a eu.
Alors, est-ce que vous dites que on n'a pas besoin de changer la Constitution pour ça, déjà? C'est déjà intéressant. Et en fait, il faudrait quoi? Il faudrait une loi votée par le Parlement pour instituer ou instaurer cette proportionnelle?
C'est ça, il faut une loi votée par le Parlement. Mm-hmm. Maintenant, on peut espérer qu'avec les résultats de des élections législatives, il y a quand même une majorité désormais au sein du Parlement de députés qui sont favorables à ce type de, à ce type
même
de réforme.
Au Sénat aussi, je crois que, puisque le Sénat est en majorité républicaine, je pense qu'ils ne sont pas contre cela aussi.
Oui, oui, le Sénat est moins concerné directement, puisque c'est quand même l'élection législative. Mais
ça dépend. Mais la loi ne dépend que de l'Assemblée ou le Sénat?
Ah non, il faut c'est la procédure.
C'est le Parlement.
Législative classique, c'est le Parlement qui va se.
C'est le va-et-vient, quoi.
Absolument. Voilà, bon, maintenant, si vous voulez, on revient toujours à la même question. Est-ce que les députés qui ont été élus au scrutin majoritaire, si par ailleurs ils sont intellectuellement et politiquement favorables à la proportionnelle, accepter ce que certains penseront être un genre de scier la branche sur laquelle on est assis, en quelque sorte?
C'est ça, c'est-à-dire vous leur demandez de se suicider en douceur.
Oui, mais ils
ne
se suicideront pas, parce que voilà...
Le droit de mourir dans la dignité.
Non, ça sera le droit de légiférer dans la dignité démocratique, ce qui sera peut-être pas mal, et ce qui changera un petit peu de l'habitude.
Ouais. Au fond, et je ne voudrais pas anticiper sur votre prochain livre, mais revenir sur les parrainages, ça a été un scandale démocratique quand même. La levée de l'anonymat des parrainages.
Oui, c'est un scandale démocratique, c'est-à-dire, en fait, ça relève de tout à fait de la même logique, si vous voulez, que, d'une part, la volonté de se crisper sur le scrutin majoritaire, et d'autre part, le fait, comme vous le disiez tout à l'heure, très justement, de refuser absolument d'utiliser les procédures référendaires, alors qu'elles ont une très grande importance dans la Constitution, tout ça, ça relève de la même logique, c'est-à-dire en fait de la domination d'une oligarchie, d'une classe politique.
C'est extraordinaire. En fait, le peuple ne doit pas s'exprimer. Il ne doit pas trop s'exprimer,
s'exprimer de telle sorte que...
Dans les limites du raisonnable.
Du convenable,
on va dire. Du convenable, voilà. Non, parce que, regardez, c'est le titre de vos bouquins, on a vu ce qui s'est passé avec les parrainages.
Bien sûr.
On voit ce qui se passe avec la proportionnelle, tout le monde en parle, mais surtout on ne le fait pas. Et enfin, le référendum, qui est votre prochain livre, 2005, vous savez que, et vous le savez aussi bien que moi, ça a marqué les esprits. Beaucoup d'abstentionnistes, pas tous, c'est arrivé de 2005. Il dit, regardez, on vote à 55% pour un référendum sur la Constitution européenne, il s'assoit dessus, 2 ans plus tard, avec le traité
Absolument, mais c'est effectivement un véritable scandale. Mais, si vous voulez, effectivement, en fait, il y a une espèce de virage oligarchique qui a été pris par la Ve République après le départ du général de Gaulle et puis surtout après la mort de Pompidou en 74, avec l'arrivée de Giscard au pouvoir, et c'est Giscard qui, pour une bonne part, et si vous voulez, est responsable de ça. Hein. Donc, on a effectivement... C'est l'héritage de Giscard.
Le tournant oligarchique a commencé avec Giscard.
Absolument. Et de ce point de vue-là, il est absolument évident que Emmanuel Macron est l'héritier incontestable du président Giscard d'Estaing.
Et de ce point de vue, donc, la technocratie a peut-être encore de beaux jours devant elle. Parce qu'on ne voit pas, c'est vrai, comment, si vous voulez, les gens qui vivent de ce système ne vont pas être les premiers à vouloir le démolir.
Mais peut-être que de nouveaux gilets jaunes vont sortir, et peut-être que cette fois-ci, avec les nouvelles majorités qui y aura à l'Assemblée nationale, peut-être qu'enfin, on va pouvoir en sortir.
Et s'il y a de nouvelles manifestations en gilets jaunes, je sais que vous, Christophe Boutin, Frédéric Ouvillois avec Christophe Boutin, vous n'aurez pas seulement le RIC, le référendum, mais la proportionnelle intégrale sur vos affiches.
Absolument.
merci en tout cas. Et lisez ce livre parce qu'il vous informera.
La proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous l'avez coécrit avec Christophe Boutin. Merci beaucoup, Frédéric Rouvillois. Et tout de suite, la culture dans tous ses états. André Barkoff avec Céline Alonso. Une émission spéciale sur les agents secrets du général de Gaulle. Qui étaient ces agents secrets de la France libre, avec Vladimir Trouplin, conservateur du musée de l'Ordre de la Libération. Merci à tous. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
10 ans que papa est parti, 10 ans qu'il a quitté la place, et chacun dans tous les partis prétend qu'il était de sa race. Même ses anciens détracteurs s'abritent à l'ombre de son chêne.
Serge Lama qui chante De Gaulle, oui, 1980, 10 ans après le départ du général. Et rappelons aussi, il faut rappeler en ces temps que le général De Gaulle, lui, il avait fait un référendum, et quand ce référendum n'a pas tourné en sa faveur, il est parti dans l'heure qui suit. Et oui, à l'époque, nous avions des hommes, des femmes, en tout cas des personnalités, qui n'hésitaient pas à faire ce qu'ils disaient. Mais rappelons 10 juin 40, le fameux appel, les Français poursuivaient la lutte, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Il crée l'Ordre de la Libération le 16 novembre 1940. 4 mois plus tôt, à sa demande, les services secrets de la France libre sont créés. Cette saga, formidable saga, de ces agents secrets, de ces héros de la résistance, il faut le dire. Une exposition a lieu actuellement au Musée de l'Ordre de la Libération à Paris, qui raconte cette vie étonnante, cette vie extraordinaire de courage des agents secrets du général Céline.
Et oui, et ce, à travers le parcours de 174 compagnons de la Libération qui ont agi donc dans la clandestinité de 1940 à 44. Alors, qui étaient-ils? Comment étaient-ils recrutés et formés, surtout? Quelles étaient leurs missions? Quelles étaient leurs conditions de vie? Voilà, et bien, on va vous répondre à toutes ces questions donc dans un instant sur Sud Radio avec Vladimir Trouplin, qui est donc le commissaire de cette sublime exposition.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût.
Et oui, Gilbert Bécaud, la voix, évidemment, du général De Gaulle. Hein. Il y a 80 ans, effectivement, après ce célèbre appel du 18 juin 1940, eh bien, les services secrets de la France libre prenaient le nom de BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action. Organisation absolument nouvelle, unique lien entre De Gaulle à Londres, puis à Alger, et la résistance intérieure. Et bien, cette organisation allait jouer un rôle essentiel dans le combat pour la libération de la France. Et bien, actuellement à Paris, une exposition passionnante que nous vous recommandons d'aller voir décrypte le monde des agents secrets du général entre 1940 et 1944, Céline.
Et oui, et cette exposition a lieu donc au Musée de l'Ordre de la Libération, qui est situé donc effectivement au sein de l'Hôtel National des Invalides. Et pour en parler bien de cette exposition, nous avons le plaisir de recevoir l'un des commissaires qui est aussi donc le conservateur de ce lieu de référence sur la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Trouplin. Donc bonjour. Alors, les services secrets de la France libre ont été créés à Londres le 1er juillet 1940 à la demande donc de De Gaulle. Rappelons dans quel contexte.
Alors, je pense qu'il faut effectivement rappeler un petit peu que la France, à ce moment-là, a connu la pire défaite militaire de son histoire. Ouais. Et que on a donc cette situation où en 6 semaines, on a 1 800 000 Français qui sont prisonniers de guerre, 60 000 morts, 123 000 blessés, une partie du territoire qui est détruit, et un abattement absolu sur la tête des Français. Et c'est ce qui explique aussi que le maréchal Pétain va prendre immédiatement la disposition qui lui convient le mieux, c'est-à-dire demander un armistice à l'Allemagne et à l'Italie. Et donc on se retrouve dans une situation où il va y avoir deux France, d'un niveau et d'une puissance absolument peu comparable, la France de Vichy, celle du maréchal Pétain qui va être celui de la Révolution nationale, et
la France officielle.
La France officielle,
en guillemets,
ouais. Et celle du général de Gaulle qui s'appelle la France libre et qui est constituée de simplement quelques milliers de volontaires qui ne veulent pas arrêter la guerre et qui veulent poursuivre le combat.
Oui. Alors, comment sont nés effectivement les services secrets de cette France libre?
Alors, le général de Gaulle ayant autour de lui très peu de monde et pas d'officiers généraux, pas d'officiers supérieurs pratiquement, c'est à un jeune capitaine de 29 ans, qui est un polytechnicien et officier du génie, qui n'a aucune expérience dans le renseignement, qui va confier la tête de son deuxième bureau, traditionnellement dans l'armée, le deuxième bureau de l'état-major est celui qui s'occupe des questions de renseignement. Et c'est donc ce jeune capitaine qui s'appelle André de Vavrin et qui va prendre le pseudonyme d'une station de métro pas très loin d'ici, Passy, qui va mettre sur pied le fameux colonel Passy, qui va mettre sur pied intégralement, avec très peu de moyens et sans expérience, les services secrets de la France libre.
Et oui. Et donc quel rôle ils ont joué ?
Alors André Bercoff le disait en préambule, c'est un rôle extrêmement important parce que d'une part, ils vont apporter non seulement au général de Gaulle mais aussi aux Britanniques des renseignements d'importance majeure sur les troupes allemandes sur le territoire français, sur l'état d'esprit de la population française. Les renseignements apportés par les agents secrets de la France libre vont d'ailleurs nourrir une radio célèbre, qui est la BBC, et les émissions Les Français parlent aux Français, qui vont pouvoir refaire, faire état d'un certain nombre de renseignements glanés et récupérés par les agents. Mais au-delà de ça, il y a des réseaux d'action, d'évasion de prisonniers de guerre, d'action militaire, et on en parlera peut-être aussi d'action politique.
Et oui, ils avaient effectivement un rôle éminemment important sur le plan politique.
Et encore une fois, ils étaient le seul lien, effectivement, entre les deux résistances, la résistance extérieure du général de Gaulle et la résistance intérieure qui naît spontanément un peu partout en France.
Et oui. Mais par rapport aux services traditionnels, donc ils avaient un rôle complètement élargi.
Absolument. Ouais. Les services traditionnels de renseignement étaient d'une part rattachés au commandement militaire et d'autre part étaient en charge de renseignement et de contre-espionnage. Les services du colonel Passy seront chargés des mêmes missions, mais au-delà de ça, d'actions militaires, ce qui n'était pas le cas avant, et d'actions politiques.
Actions qui impliquaient aussi sabotage, enfin actions militaires, c'est ça.
Absolument.
Sabotage, lever des fusils, la mitraille, les grenades, le fameux champ des partisans.
Ouais. Dans l'optique d'avoir une armée secrète qui soit en mesure de jouer un rôle, de peser au moment de la libération du territoire, et on le savait déjà très vite, au moment où les alliés finirait par débarquer sur le sol français.
Ce qu'on appelait l'armée des ombres.
Exactement. C'est former l'armée des ombres, lui donner des moyens militaires, l'instruire. Mmh. Et puis sur le plan politique, c'est très important, c'est ces agents du BCRA qui vont mettre en place cette union de la résistance qui sera concrétisée par Jean Moulin, qui est peut-être le plus célèbre finalement de ces agents secrets du général, par le Conseil national de la résistance, le 27 mai 1943.
Oui. Et ces agents, on peut dire qu'ils ont obtenu quand même des résultats assez exceptionnels pendant la guerre.
Ils ont obtenu des résultats exceptionnels en considérant surtout leur nombre au départ très très peu nombreux et les conditions extrêmement difficiles et la particularité, vous savez, les agents de renseignement en général, ils partent de leur propre pays, ils opèrent à l'étranger. Là, c'est très particulier, c'est des Français exilés qui opèrent non
dans
pas à l'étranger mais dans leur propre pays.
Ah ouais, c'est passionnant d'ailleurs.
Effectivement.
Ça,
les effectifs, effectivement, vous parlez de noms, mais ils étaient combien en fait au final ?
Alors, au final, le final masque la réalité. Au final, vous avez 80 000 agents du BCRA, dont 77 000 recrutés en France. Mais là, on est en 1944, quasiment après la libération où les services ont énormément grossi. La réalité, c'est que les 2-3 premières années, jusqu'en 1943, c'est quelques centaines de personnes.
C'est ça, il faut le rappeler. Ouais. Voilà. Le début, les 3 premières années, vous dites, oui.
Ah oui, les trois premières années.
En fait, à l'époque, les gens qui rejoignaient De Gaulle ne venaient pas justement pour être agents secrets, ils voulaient combattre,
absolument.
C'est ça. Ouais.
Absolument, le renseignement, c'est quelque chose qui n'était pas dans l'imagerie, dans l'imaginaire de la jeunesse de France. La jeunesse de France, pour les garçons en particulier, ils voulaient tous être pilotes de chasse.
Okay.
Bon, et donc, à défaut d'être pilotes de chasse, ils voulaient se battre. Donc beaucoup, évidemment, ont rejoint l'armée de terre, qui à l'époque était beaucoup plus importante. Et ça crée un problème de recrutement d'agents, parce que ça ne faisait pas rêver le renseignement. Et certains se sont tournés vers le renseignement, faute de trouver une affectation. C'est le cas d'un d'entre eux qui est assez connu, Daniel Cordier.
Eh oui.
Qui, à force de tourner en rond, ne pas avoir d'affectation, a eu un camarade qui a été pris dans les services. Il a réussi à faire dire ce que son camarade n'aurait pas dû lui dire. C'est qu'il avait été pris dans les services de Passy. Et il a fait des pieds et des mains pour être pris, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé agent du BCR.
Et Daniel Cordier, rappelons-le, a été le secrétaire de Jean Moulin.
Absolument.
Et il a écrit ses adieux Caracalla et ses mémoires magnifiques.
Et oui, absolument. Et il a surtout effectué une des plus grandes missions, plus longue du monde.
Une des plus longues, il a fait une mission de 22 mois dans la clandestinité, ce qui est extrêmement long.
Oui, ce qui est assez... Alors comment étaient recrutés? Parce que c'est assez complexe.
Alors ces agents, d'abord, ils sont recrutés à Londres, même si, je l'ai bien dit, tous les agents du BCRA ne sont pas forcément allés à Londres, mais au départ, ils sont évidemment recrutés parmi les volontaires de la France libre.
Bien sûr.
Il faut qu'on détecte chez eux un certain nombre de qualités. Donc, ils passent au crible d'abord des Britanniques à travers une école qui s'appelle Patriotic School et qui n'est pas une école très sympathique. C'est celle où on vous soumet des interrogatoires extrêmement serrés. Ça peut durer une semaine ou 15 jours. Vous êtes prisonnier. Il n'est pas question d'en sortir. Bah, évidemment, il s'agit d'éviter l'entrée sur le territoire anglais d'espions allemands ou autres. Et donc, il y a ce criblage-là. Et ensuite, lorsqu'on considère que les gens sont aptes à s'engager dans la France libre, bon, au passage, les Anglais essayent aussi de récupérer quelques Français pour leur propre service. Mais ensuite, les Français libres qui sont sortis de cette école, quand on détecte chez eux un certain sens moral fort, un engagement très profond, on voit s'ils sont capables d'être des agents. Et à ce moment-là, on va les envoyer dans des écoles de formation britanniques. Parce que il n'y a que les Anglais qui peuvent aider les services français. Sans les Anglais, rien ne se ferait.
On leur doit tout, en quelque sorte.
On leur doit tout, de ce point de vue-là. Et en même
temps, ils étaient complètement dépendants d'eux.
Totalement dépendants d'eux. Totalement dépendants d'eux par la formation des agents. Il y a une trentaine d'écoles sur le territoire de Grande-Bretagne qui sont des écoles techniques de formation, sabotage, parachutage, liaison radio, codage, cambriolage, enfin tout ce qui fait un parfait agent. Les moyens techniques, c'est-à-dire les avions qui permettaient de parachuter les agents, sont absolument britanniques. Et tout l'équipement de l'agent, y compris les petits gadgets dont on parlera peut-être tout à l'heure, sont britanniques. Mais c'est un gentleman agreement, parce que les Anglais ont un besoin capital de connaître ce qui se passe en France. Et ils ont bien compris qu'envoyer des agents anglais, même parlant très bien français, c'était quand même extrêmement risqué. Et donc, il faut employer les Français. D'où cet arrangement avec les services français du général de Gaulle. On vous aide, vous nous donnez les renseignements, et c'est vos hommes qu'on va envoyer en grande majorité.
Eh oui, mais les rapports étaient quand même parfois tendus, non ? Parce qu'il faut rappeler quand même que les Britanniques, les Anglais, ne reconnaissaient pas la France libre comme un gouvernement en exil.
Oui, ça c'est le péché originel du maréchal Pétain, si je peux faire une incise. Eh ouais. La France est le seul pays occupé par l'Allemagne, en Europe occidentale, à avoir signé un armistice, et donc être sorti de la guerre. À partir
c'est
de là,
le seul pays qui a signé l'armistice.
Absolument. Ni les Belges, ni les Hollandais, ni les Polonais, ni les Tchèques, ni les Luxembourgeois même, n'ont choisi de signer une fin des combats de cette manière-là. Ce qui fait que la France, sortant officiellement de la guerre, son gouvernement légal, même aux yeux des Britanniques, c'est celui du maréchal Pétain. D'où la difficulté de Gaulle à exister de ce point de vue-là. Et d'où la difficulté de Gaulle à recruter, parce qu'il fallait donc s'opposer non seulement à l'ennemi, mais à son propre gouvernement.
Ça, et dans l'illégalité.
Ah oui. Alors concrètement, comment ils étaient formés ? Comment ça se passe, une formation d'un agent ?
Ça dure 1, 2, 3 mois. On les envoie dans différentes écoles. D'abord, ils commencent par faire un entraînement militaire assez classique, c'est-à-dire ils apprennent à tirer, le maniement de toutes les armes possibles et imaginables, le close combat, comment tuer quelqu'un à main nue, enfin ce genre de choses, donc ils font partie de la guerre. Et puis ensuite, on les envoie dans des écoles, des training schools, des écoles spécialisées, où ils vont apprendre tous à coder et à décoder. Ils vont apprendre évidemment le sabotage, c'est-à-dire là le maniement particulier des explosifs. Ils vont apprendre à éviter les filatures, ils vont évidemment apprendre à vivre dans la vie clandestine. Donc il y a vraiment toute une formation qui est extrêmement stricte, et surtout les instructeurs britanniques font des rapports extrêmement détaillés dans lesquels ils définissent leur vision de l'agent. Et donc toute une partie de ces gens-là ne seront jamais agents, hein, très clairement, parce qu'ils n'en ont pas les qualités. Et on va surtout détecter les qualités techniques ou morales ou intellectuelles des uns et des autres. Ça veut dire qu'on va commencer à les prédiriger vers des missions, vers des fonctions particulières, c'est-à-dire que quelqu'un qui est un peu solitaire, qui n'est pas très causant, mais qui est un manuel extraordinaire, un homme qui a du sens de l'initiative, il sera saboteur.
Les dons de chacun.
Voilà.
Utiliser les dons de chacun.
Exactement. Ouais. Et quelqu'un qui manie très bien et qui se débrouille très bien avec le codage et la transmission clandestine en morse, qui est un exercice pas facile, on va vite l'aiguiller vers le fait d'être opérateur radio. Et puis, il y a des gens dont on va se dire, bon, il n'est pas très doué physiquement, mais par contre, quel entraîneur d'homme avec ses copains, quelle qualité intellectuelle il a. Ce seront des chefs de mission, ces gens-là. C'est-à-dire, ce sont des patrons. Hein, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, eh bien, l'agent est officiellement recruté.
Ah oui, c'est bien. Mais quelle est l'étape, en fait, à partir de laquelle on est susceptible de savoir qu'on peut être dans les services secrets ?
L'agent le sait au terme de cette formation technique.
Ah
c'est-à-dire
oui,
qu'on lui dit, vous n'avez pas passé les tests, vous allez être reversé dans une unité combattante, vous avez passé les tests, vous entrez au BCRA, vous prenez donc à ce moment-là un nom fictif, on vous crée une légende, et vous allez vous préparer à la mission. Qui peut être,
on
qui
lui
peut
créer sa biographie, sa
ouais,
vie.
Oui, oui, c'est comme le bureau des légendes, hein, c'est ça. Et, oui, donc, c'est, ouais. Et ça peut durer deux mois, trois mois, six mois, huit mois à attendre une mission. Et à ce moment-là, l'officier est bien obligé de vivre à Londres. Et donc, il vit comme un officier des forces françaises libres normales, sauf qu'il a un faux nom, qu'il ne doit évidemment pas dire à ses camarades, parce qu'ils se connaissent un peu tous. Certains sont même partis ensemble de la France pour l'Angleterre. Ils ne doivent pas raconter, évidemment, ni leur affectation, encore moins leur mission. Ils ne doivent pas se prendre en photo. Et quand il y a des réunions officielles, des cérémonies, par exemple, quand le général de Gaulle fait un grand discours à l'Olympia Hall à Londres, ils sont invités, mais on les met dans un coin à part. On ne les mélange pas avec les autres. Donc ils ont cette semi-vie clandestine, mais en même temps, ils vont dans les restaurants que fréquentent les Français. Ils vivent une vie à peu près normale.
Juste un mot, Vladimir Troublin. Combien étaient-ils, je parle des agents secrets, recrutés, enfin formés, fini de formation, en 40, fin 40 ? Pour dire, ils étaient combien ?
Fin 40, ils étaient peut-être 30 ou 40.
C'est tout.
Ah mais oui, c'est la première mission. Alors, les premiers agents envoyés par le colonel Passy, qui n'est pas colonel, hein, il a 29 ans, et de Gaulle, il est capitaine, De Gaulle vient de le nommer commandant. Juste le petit grade au-dessus, le commandant Passy envoie les premiers agents en juillet 40, septembre 40. Des gens célèbres comme un certain Gilbert Renaud, connu sous le nom de colonel Rémy, Pierre Fourcault, Maurice Duclos, qui vont tous devenir des cadres importants du BCRA par la suite.
Après, oui.
Ils sont chargés surtout de missions de renseignement, parce qu'on n'a aucun moyen technique, on ne sait pas comment saboter. En fait, ils créent des petits réseaux qui vont grandir de renseignements militaires. C'est surtout ça. Ça, c'est en 40. Et les premières actions
ils
armées...
Ils sont 30-40, là.
Oui, trentaine, ouais, quarantaine. Là, et en 41... En 1941, les premières actions armées ont lieu en mars et mai 1941, qui sont des opérations de sabotage projetées depuis l'Angleterre. Mais tout ça est très progressif. En fait, ce qui va aussi aider les services à recruter à partir de 1943, c'est quand il y aura la réunion, peut-être on en dira un mot, entre les services de Vichy à Alger et les services du général de Gaulle, et que donc là, les effectifs de Vichy vont venir compléter, et que surtout, beaucoup de jeunes Français évadés par l'Espagne rejoignant l'Afrique du Nord, vont être recrutés pour faire des agents d'opération.
Il y a eu non pas jonction, mais il y a eu rencontre vraiment synergie avec Vichy, là.
Alors, je parle à Alger. Là, c'est Alger en 1943, mais il y a même plus que ça, il y a fusion.
Il y a fusion. Ouais,
il y a fusion difficile. Ouais.
Avec Giraud, hein.
Avec Giraud, avec les services de Giraud, qui sont en fait les anciens services de Vichy, qui sont les services traditionnels français de renseignement de l'armée, qui ont poursuivi leur travail avec l'armée d'armistice très réduite que les Allemands autorisaient à la France de Pétain. Mais quand l'armée d'armistice est dissoute par l'occupation totale du territoire français en novembre 1942 pour répondre justement au débarquement allié en Afrique du Nord, à ce moment-là, les chefs de l'armée des services de renseignement passent à Alger.
Et juste un mot, est-ce que ça a bougé, tout ce que vous décrivez là, c'est après Stalingrad, au moment de la victoire de Stalingrad, est-ce que ça a joué vraiment un rôle là aussi ?
Non, la victoire de Stalingrad, à mon avis, ne joue pas de rôle. Simplement, elle marque le tournant de la guerre sur le plan militaire, hein, on le sait tous. Mais il y a toute une conjonction. C'est vrai que les Allemands commencent à reculer un peu partout. Début 1943, et le débarquement allié en Afrique du Nord est un tournant très important également, qui précède Stalingrad de quelques mois.
Oui. Mais les agents secrets de la France libre, est-ce qu'ils étaient en contact avec ceux de Pétain ?
En France, donc, quand ils étaient envoyés en mission en France. Très rarement, et c'est des initiatives individuelles. Il n'y a pas de contact réel et officiel entre les deux services.
Bah oui, ça serait étonnant.
Mais il y a effectivement, au sein des services secrets du maréchal Pétain, une branche totalement officieuse qui travaille contre les Allemands, qui fait du renseignement militaire contre les Allemands, mais qui en même temps est ni gaulliste ni pro-britannique. Mais en revanche, il y a des contacts, parce que certaines personnes se connaissaient avant-guerre, et se rencontrent, se jugent. Et quelques agents des services de Vichy sont directement passés à Londres dès 1941.
Pardon, comment, c'est quand même très étonnant, comment ils travaillent contre les Allemands alors que Pétain avait décidé de la collaboration. Nous sommes entrés dans la voie de la collaboration. Non mais je veux dire, qu'ils soient au sein du gouvernement Pétain ou au sein en tout cas de... Ça paraît...
C'est un des paradoxes de la guerre, si vous voulez. Ou même au sein de la Révolution nationale, on pouvait aimer beaucoup le maréchal Pétain, avoir un peu des idées qui étaient les siennes et détester foncièrement les Allemands. Et c'est le cas de beaucoup de militaires français. Et finalement, les militaires français n'ont pas été collaborationnistes dans leur grande majorité.
Mais beaucoup de gens, d'ailleurs, de droite, même nationaliste, etc., étaient anti-allemands et ont rejoint la résistance. D'ailleurs.
C'est le cas de Daniel Cordier, dont on parlait tout à l'heure, qui était même maurassien et même antisémite, disons-le franchement. Il l'a raconté à de nombreuses reprises et qui était sur la ligne Pétain jusqu'au jour où il a entendu le message de Pétain aux Français le 17 juin. Et il s'est mis à détester Pétain à l'instant même en se disant « mais il nous a trahis », alors qu'il était pétainiste.
Vladimir Troublin, on va continuer de parler des agents secrets du général de Gaulle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle.
Eh oui, l'immortel chant des partisans, écrit, je le rappelle, par Joseph Kessel et Maurice Dorion. Et une exposition rappelle tout cela sur cette lutte clandestine, cette lutte secrète, cette lutte de ces héros, il faut le dire, ces agents secrets du général, compagnons de la Libération. De 1940 à 1944, ils se sont battus en France et ailleurs, en Afrique du Nord aussi. Et l'exposition passionnante a lieu actuellement au Musée de l'Ordre de la Libération, au cœur de l'Hôtel National des Invalides à Paris, Céline.
Et oui, et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'un des commissaires de cette exposition, donc qui a lieu jusqu'au 16 octobre, Vladimir Trouplin. Alors, les missions confiées aux agents clandestins du général de Gaulle étaient variées, on en a parlé il y a quelques instants sur Sud Radio. Mais avant de partir en mission, donc, l'agent doit franchir plusieurs étapes. La première est l'abandon du nom de Londres. Racontez-nous ce que c'était exactement.
Et oui, on a dit tout à l'heure qu'entrant comme agent au service secret, on lui donne une fausse identité, qui est son identité de Londres. Mais quand il part en mission, il a un ordre de mission et un nom tout à fait différent, une légende tout à fait différente, et on le prépare à connaître cette légende. Donc il passe un certain nombre d'entretiens pour qu'on comprenne s'il a bien assimilé le personnage qu'il doit être en France. Ensuite, évidemment, on va l'équiper d'un certain nombre de choses, des vêtements français, dont toutes les marques de tailleur ont été retirées.
Ah ouais,
évidemment, on va lui fournir des petits objets insolites qui lui serviront dans la vie clandestine.
Par exemple ?
Des objets usuels qui servent à cacher des messages. Un manche de rasoir, par exemple, dans lequel on peut glisser un papier. On présente ça dans le musée. On présente également une brosse à chaussures toute simple, mais qui est truquée, qui permet d'y cacher un certain nombre d'informations. On va l'équiper aussi d'appareils de réception radio qui sont sans danger, parce que la radio est dangereuse quand on émet, on peut être repéré, mais quand on reçoit, ouais, et qui lui permet d'écouter les messages personnels de la BBC qui sont en fait très souvent des mots d'ordre qui donnent le signal d'une action. Et puis on va lui confier ce qui est la particularité unique de l'agent, et c'est pas la plus drôle, c'est la pilule de cyanure qu'il peut refuser pour des raisons éthiques, morales, personnelles.
Qui entraîne, c'est un poison qui entraîne la mort.
Une mort immédiate. Ouais.
Une mort immédiate, et un certain nombre de ces agents, hélas, ont été obligés de prendre cette...
Pour ne pas qu'ils soient attrapés, quand ils sont attrapés,
pour pas parler.
La torture et ne pas parler, bien sûr.
Pour ne pas faire s'effondrer les réseaux, pour ne pas être obligés de trahir, et voilà.
Ah oui. Mais tous ces accessoires et tous ces vêtements étaient donc fabriqués. D'où ils venaient ? Ils étaient fabriqués sur place ?
Les Anglais, faisaient tout. Les Anglais avaient aussi une ingéniosité, une inventivité absolument formidable, justement, pour fabriquer des petits objets du quotidien qui servaient aux petits gadgets, les petits gadgets de James Bond avant l'heure, si vous voulez. Oui. Et donc, les vêtements étaient anglais. Ils essayaient de suivre la mode française, ce qui n'est pas toujours très réussi, parce qu'on montre une veste du BCRA d'un agent civil qui a jamais servi, parce qu'elle fait tellement anglais que c'était pas formidable. Mais donc ces agents étaient parachutés généralement en civil avec une tenue de saut fournie par le SOE britannique et qui servait à éviter que les vêtements s'abîment à l'atterrissage ou soient abîmés par des branches, et ils devaient détruire ces combinaisons de saut ou les enterrer pour évidemment être le plus discret. Donc si vous voulez, c'est Monsieur Tout le Monde. L'officier de la France Libre devient Monsieur Tout le Monde. Il doit se fondre dans le paysage.
Ah oui, c'est ça. Et avant de partir, l'agent rédige son testament, c'est ça ?
Oui, alors on montre un exemple d'un jeune homme qui s'appelle Henri Labi, qui est un de nos compagnons du BCRA, et qui écrit, alors c'est très court, il écrit « En cas de perte irrémédiable pour la nation, c'est-à-dire ma pomme, donnez à ma famille mes vêtements et mon compte en banque. »
Ouais, c'est joli.
Il avait 20 ans.
Et il
avale sa pilule de cyanure un an et demi plus tard.
Voilà. Ouais, incroyable. Alors, quelles étaient leurs conditions de vie dans la clandestinité ?
Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, un agent, pour être efficace, il ne peut pas être isolé. Et donc, ces agents, ils doivent faire avec les contacts qu'on leur a donnés de Londres, mais ils doivent aller au-delà de ça, trouver des contacts dans la population française qui sont des gens qui vont les héberger deux jours, garder du courrier, cacher un certain nombre de choses, leur fournir éventuellement aussi des agents supplémentaires qui vont compléter le réseau dont ils ont la charge. Donc, en gros, un clandestin isolé n'est rien. Ouais. Et il y a un exemple très intéressant. Les Allemands, en 1945, avant leur capitulation, ont essayé de faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont parachuté des Français depuis l'Allemagne en territoire français libéré pour essayer de faire de l'action subversive. En 3 jours, ils ont tous été arrêtés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces agents allemands n'avaient aucun soutien possible dans population.
Ils n'étaient pas des poissons dans l'eau.
Ils ne pouvaient pas être des poissons dans l'eau. Et ça montre bien quand même que la population française, finalement, y compris des gens qui ne sont pas homologués comme résistants, ont donné des coups de main, ont fermé les yeux, ont aidé une partie de ces agents dans leur mission.
Et oui. Mais comment ces aides étaient recrutées ? Comment leur faire confiance ? Comment ne pas être trahi ?
C'est la grande difficulté de la chose. C'est la part de risque. C'est la part de risque qu'on accepte de prendre. Et donc, on fait des rencontres, une première, on se fait un avis, on redonne un rendez-vous. Si l'avis n'est pas bon et si on ne le sent pas bien, on ne donne jamais suite. C'est ce que raconte un des compagnons de la Libération, parce qu'on a quelques témoignages d'agents bien après la guerre, qui racontent qu'on l'a envoyé à Bordeaux voir quelqu'un, ça ne lui a pas plu du tout, il a coupé court immédiatement.
Ah, il a eu son instinct à réagir.
Uniquement l'instinct. Et il dit, mon instinct ne m'a pas trompé, parce que le type a été la cause de l'arrestation de 25 personnes ou 30 personnes dans le réseau. Voilà. Donc il y a une part de chance et une part de risque.
Il y avait les traîtres, il y avait les... Voilà,
malheureusement,
les
retournés, oui.
Et tout au long de sa mission, donc, l'agent doit couper totalement les liens avec tous ses proches, famille, femme, enfant.
Il ne doit évidemment pas reprendre contact avec sa famille, qu'il doit absolument ignorer qu'il est en France pour des raisons de sécurité. Il ne doit pas revoir ses amis. Normalement, il est même censé ne pas voir les agents qui sont les agents anglais comme lui, enfin venus d'Angleterre comme lui, qui connaît très bien, qui sont parfois des camarades de chambrée dans leur formation en Angleterre. Sauf que c'est pas toujours respecté. Daniel Cordier, le jour de son anniversaire, rencontre Maurice de Chevigné, qui est un opérateur radio avec qui connaît, qui est un de ses meilleurs amis. Et Maurice de Chevigné le prend en photo au Place Bellecour à Lyon pour marquer l'événement de l'anniversaire de Cordier. On monte la photo, c'est absolument interdit. Bon. Mais vous savez, quand on reste 22 mois dans la clandestinité, il y a un moment où, immanquablement, la peur première, la peur du début, disparaît. Et puis, il y a un certain nombre de consignes qui disparaissent avec.
Oui. Et ces agents ne bénéficiaient pas de protection liée au droit de guerre ?
Mais non, évidemment, ils sont considérés comme des francs-tireurs, et donc, clairement, quand ils sont arrêtés, ils ne sont pas soumis aux lois de la guerre, donc ils ne sont pas prisonniers de guerre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire clairement que pour les Allemands, c'est au mieux pour eux la déportation, et autrement, le fusiller, exécuter, massacrer.
Torturer d'abord,
et torturer d'abord.
Mais oui, combien ont survécu à la guerre ?
Alors, sur les 174 compagnons agents secrets, qui est vraiment l'objet de notre exposition, 60 sont morts pendant la guerre. Ça fait un taux de perte de presque 35%, ce qui est absolument considérable, parce que c'est très supérieur à toutes les unités militaires engagées qui avaient des pertes, mais 35% de pertes, c'est considérable.
Et oui, et rappelons que Jean Moulin, effectivement, a succombé donc sous la torture le 8 juillet 1943. À ce propos, écoutons donc ce célèbre discours d'André Malraux.
Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.
Fabuleux l'ordre de la nuit, extraordinaire discours de
Malraux. Eh oui, qui avait été prononcé le 19 décembre 1964, donc lors du transfert des cendres au Panthéon, exactement.
Alors c'est intéressant, combien de compagnons de la Libération ont survécu à la guerre ? Vous avez dit que 60 sont morts, c'est-à-dire donc...
Ça en fait 114 en fait.
114, ont survécu.
Qu'est-ce qu'ils ont fait après la guerre, tous ces compagnons ?
Alors des choses... D'abord, très peu sont restés dans les services, parce qu'en fait, ce n'étaient pas des professionnels du renseignement. C'était, entre guillemets, des amateurs volontaires. Et donc, une fois la guerre terminée, ce n'était pas forcément leur vocation. Il y en a 4 qui sont restés dans les services, dont Pierre Fourcault, qui est un des piliers du début. Et puis après, ils ont repris le cours de leur vie. Il y en a une vingtaine qui ont fait ensuite carrière dans l'armée. Il y en a qui ont fait carrière dans la politique. Certains noms assez connus, comme Jacques
Chabot. Passy est devenu et est resté.
Non, Passy est resté jusqu'en 1946, jusqu'à la création du SDEC, le SDEC qui a suivi le BCRA, si vous voulez. Et après, il a démissionné et il est passé dans le secteur privé. Mais enfin, vous avez des hommes politiques comme Jacques Chaban-Delmas, qui est un ancien agent clandestin.
Oui, on l'oublie, ça.
Membre d'un réseau de renseignement militaire. Ouais. Et puis des gens qui ont fait des carrières très étonnantes, comme Daniel Cordier, qui est devenu un galeriste collectionneur d'art très connu. Certains sont devenus des écrivains très prolifiques, comme Dominique Ponchardier, qui est l'auteur, on ne le sait pas trop, mais du Gorille, par exemple. Ou le colonel Rémy, qui a fait une carrière d'écrivain tout à fait prolifique après la guerre. Voilà. Donc des destins très, très variés.
Et oui, rappelons que Romain Gary a fait partie, effectivement, de ses agents, André.
Oui, absolument.
Enfin, alors, pas des agents, il fait partie des compagnons de la Libération.
Exactement.
Il était dans les bombardiers, voilà. Il était officier observateur dans les bombardiers de la France libre.
D'accord. Donc, c'était dans quel type de mission il a...
Il a fait des missions en Afrique, Romain Gary, et puis ensuite, à partir de 1943, son groupe de bombardement est arrivé en Angleterre pour les missions sur l'Allemagne, etc.
Et c'est lui qui a eu cette phrase extraordinaire, parce qu'on en parle, il dit justement, compagnon de la Libération, il disait, je n'ai pas une goutte de sang français, mais c'est la France qui coule dans mes veines. Et il y a eu, d'ailleurs, c'est très intéressant de rappeler ça, parce qu'il y avait aussi les résistants de Missak Manouchian, vous savez, les FTP Moy, etc., la fiche rouge. Et c'est très intéressant, parce que dans le poème d'Aragon, chanté par Léo Ferré, il disait, parce que c'est intéressant de rappeler ça aujourd'hui, ils ont été fusillés, n'est-ce pas? Et il disait la France en s'abattant.
Absolument.
Il faut rappeler ça aujourd'hui, ça parle tout à fait. Juste une chose, De Gaulle, il était au courant, enfin, il supervisait ça, il suivait ça de Londres. Je veux dire, est-ce qu'il était très au courant?
Alors, le général De Gaulle n'était pas un homme de renseignement. C'était un militaire assez traditionnel et il voyait le renseignement avec un peu de distance. C'était pas son truc.
Il reconnaissait la valeur du renseignement.
Oui. Mais il a mis du temps. En 1942, il a donné l'ordre à Passy, justement, d'aller au-delà des travaux des services de renseignement traditionnels pour faire de l'action militaire et de l'action politique en France. C'est ce qu'on disait. Et c'est là que tout a changé. C'est-à-dire, on en parlera peut-être si on a le temps, mais la DGSE d'aujourd'hui, c'est l'héritière directe du BCRA de 1942, parce que c'est exactement le même type de fonctionnement des services secrets et spéciaux en même temps, non plus rattachés aux militaires, mais aux politiques. C'est la grande différence. Et dans l'exposition...
Ça a commencé en 1942. C'est le politique de Gaulle qui a...
C'est De Gaulle qui décide que les services doivent être rattachés aux politiques, c'est-à-dire à son état-major à lui, pour être très clair. Et d'ailleurs, il y a une photo de De Gaulle dédicacée dans le musée, dans l'exposition, au BCRA, en toute confiance, Charles De Gaulle. Et ça, c'est tout à fait étonnant, parce que De Gaulle dédicaçait jamais à des collectivités, à des individus.
Ça marque
la confiance de Gaulle, mais c'est une confiance un peu tardive.
C'est intéressant.
Vladimir Troupla, on va continuer de parler des agents secrets du général De Gaulle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Les Allemands étaient chez moi, ils me dirent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme, j'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière.
Magnifique chanson de Leonard Cohen, Les Partisans. Vous voyez, il dit, j'ai changé de nom, j'ai perdu ma famille, mais j'ai la France entière. Et on en parle à l'occasion de cette exposition qui leur est dédiée, les agents secrets de la France libre au Musée de l'Ordre de Libération à Paris, qui raconte tout sur l'histoire.
Oui, exactement. Et cette exposition se fait en partenariat donc avec la DGSE, Vladimir Troupla. Pour quelles raisons? Expliquez-nous.
Alors d'abord, pour une question un peu mémorielle, c'est que la DGSE fête en ce moment le 40e anniversaire de son appellation DGSE et qu'elle est très attachée aussi à l'histoire, à ses racines, et donc au 80e anniversaire du BCRA également. Et comme il y a eu un rapprochement avec l'Ordre de la Libération il y a quelques années, puisque les militaires de la DGSE du 44e régiment d'infanterie peuvent porter depuis 2017 la fourragère de l'Ordre de la Libération. On a proposé à la DGSE de contribuer. Et puis il y avait une autre raison qui était un peu intéressée, c'est qu'en fait, pour parler des agents secrets, les collections de la DGSE, les objets, les gadgets sont absolument exceptionnels. Et pour tout dire, il fallait absolument faire appel à eux. Donc c'est aussi comme ça qu'est né ce partenariat.
Ah oui, quelques exemples de gadgets exposés.
Ben vous avez un stylo lance-gaz, par exemple, qui fait très James Bond. Vous avez le Minox du colonel Passy, c'est ces petits appareils photo miniatures qui servaient évidemment au renseignement, à photographier les documents. On a un S-Phone qui est l'ancêtre du téléphone portable. Alors quand on le voit, ça ne rend pas du tout un portable, mais, parce que ça pèse 15 kilos. Mais ça permettait de communiquer en direct jusqu'à 10 km de distance et en voie non trafiquée, si vous voulez, avec des avions tournait et auquel vous pouviez à la fois passer des informations ou que vous pouviez guider pour des parachutages ou des bombardements. Voilà, ce genre de choses.
Ah oui. Alors, l'ordre de la libération, on le rappelle, c'est le deuxième ordre national après la Légion d'honneur. Pourquoi De Gaulle l'a institué ?
D'abord parce qu'il a compris que la lutte serait longue et compliquée, parce qu'il a connu un gros échec en essayant de rallier l'Afrique occidentale française en septembre 1940 à Dakar. C'était une catastrophe. Les premiers morts de la France libre tués par des balles françaises, c'était quelque chose d'affreux. Et il s'est dit ça va être très long. Donc il faut encourager les quelques milliers d'hommes et de femmes qui m'ont rejoint. Il faut les récompenser les plus méritants. Et puis ça s'inscrit plus largement dans un contexte très politique qui est celui de la légitimité du général de Gaulle face à celle de Pétain. De Gaulle estime que le gouvernement de Vichy est illégitime, parce qu'il n'avait pas le droit de mettre un terme à la République. À partir de là, il est nul et non avenu, et donc qui représente la France ? C'est la France qui combat, c'est-à-dire lui et ses hommes, et il met en place un embryon d'État, et il crée un peu la Légion d'honneur de la France libre avec l'Ordre de la Libération.
Ah oui, et à ce jour, combien de personnes, ou de femmes aussi, qui l'ont reçu ?
Très peu. 1038 hommes et femmes, dont 6 femmes. Seulement, donc c'est très peu, et c'est révélateur aussi de ce qu'était la condition féminine à l'époque, qui était encore une fois une mineure civile et civique. Mais voyez, c'est un tout petit, une petite cohorte, ces 1038.
Oui. Puis il faut rappeler que la Légion d'honneur est distribuée, je ne sais pas personnellement à n'importe qui, mais enfin elle est distribuée très massivement aujourd'hui, la Légion d'honneur, alors que l'Ordre de la Libération.
L'Ordre de la Libération est resté. De Gaulle a toujours voulu que ce soit extrêmement parcimonieux. Pour garder un caractère extrêmement exemplaire. Mais les compagnons n'ont pas libéré la France tout seuls. Ils sont aussi les représentants de toutes celles et de tous ceux qui ont mené à leur côté avec eux le même
inconnus,
combat.
Les inconnus, absolument.
Et, et aujourd'hui, alors, quelles sont les missions de l'Ordre de la Libération ?
Alors, le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, nous a quittés en octobre dernier. Il y a eu une très belle cérémonie le 11 novembre. Il a été enterré au Mont-Valérien. Et l'Ordre de la Libération, depuis plusieurs années, évidemment, se prépare à cette disparition physique. La mission de l'Ordre de la Libération, au-delà de l'organisation chaque année de la cérémonie du 18 juin, qui est un caractère très mémoriel, se dirige véritablement vers l'avenir et vers la jeunesse de France, considérant que le patrimoine moral, les histoires, l'engagement de ses compagnons de la Libération doit être absolument transmis aux jeunes générations et faire un peu figure, modestement, de boussole de citoyenneté. Montrer et conforter ce qu'on appelle aujourd'hui l'esprit de défense. Qu'est-ce qu'on a de commun ? Qu'est-ce qu'on a de commun à défendre en cas de problème ? Et le retour de la guerre en Europe nous apprend aussi que la défense n'est pas seulement le rôle des militaires, mais aussi de toute une nation.
C'est clair, mais alors de ce point de vue-là, c'est le patrimoine immatériel de la France, mémoriel de la France. Est-ce qu'il y a une action ? Est-ce que vous n'êtes peut-être pas les moyens, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une action dans les écoles, un peu partout, que des gens aillent ? Parce que c'est là que ça se passe aujourd'hui. Ouais. L'avenir, il est là. Il est que ce que vous racontez là, avec cette exposition, et puis ce combat qui a été exemplaire à tout point de vue, le raconter dans les écoles et un peu partout.
Oui, alors évidemment, nous on a aussi un programme pédagogique, une offre pédagogique pour les jeunes et scolaires. Notre cible, même si le mot est affreux, ce sont les élèves de CM2, de 3e et de terminale, c'est-à-dire au moment où dans leur parcours, ils abordent la Seconde Guerre mondiale.
Bien sûr.
On fait beaucoup de choses, et puis l'Ordre de la Libération n'est pas un ordre germano-pratin, c'est-à-dire que le général Baptiste, qui est le délégué national, le patron de l'Ordre, signe des conventions partout en région, avec des collectivités, avec l'idée de faire ressortir de l'ombre les héros locaux, parce que l'Ordre de la Libération, c'est 1038 compagnons, mais c'est aussi 65 000 médaillés de la résistance française, et qui essaiment le territoire national. Et donc les faire ressortir et faire contribuer les élèves à les faire ressortir localement, c'est sans doute le meilleur des moyens, pas simplement de leur redonner vie, mais aussi de faire réfléchir les jeunes sur ce que c'est que l'engagement.
C'est ça, et aujourd'hui, c'est tellement important, aujourd'hui, c'est devenu... Mais alors, comment ça se passe pratiquement ? Il y a des gens qui vont dans les écoles ? Comment ça se passe
Alors, concrètement, nous, on invite les écoles, en leur donnant quelques moyens de la France entière, à venir, quand il y a des conventions signées avec les collectivités,
à venir au musée,
gratuitement, on leur fait vraiment une médiation, etc. Et puis, localement, ce qui marche très bien, c'est quand, justement, une municipalité, un département, décide de rendre hommage à un certain nombre de résistants locaux un peu oubliés, et qu'à ce moment-là, les élèves on les associe, mais pas en spectateurs, en acteurs. Et c'est-à-dire qu'on leur demande de restituer eux-mêmes la vie de ces personnages. C'est-à-dire que ça les oblige à travailler, à s'informer.
À faire une information.
Voilà, et d'accord. À comprendre de qui on parle et ce que ça représente. Et ça marche véritablement très bien. Et en plus, quand c'est associé à une manifestation, vous avez des drapeaux, des porte-drapeaux, une petite délégation militaire, que les enfants chantent le chant des partisans. Vous voyez, ça permet d'irriguer un peu les mémoires.
Et j'espère que dans les classes, les professeurs et les instituteurs reprennent ça. Parce que c'est important.
Je vais vous dire, moi j'ai un certain âge, de plus en plus. C'est très clair.
C'est une bonne chose.
Alors ce musée, on peut dire qu'il retrace toute l'histoire, c'est ça, de la France libre de 40 à 45. Alors, qu'est-ce qui est exposé exactement ?
Alors, ce serait prétentieux de dire qu'on est toute l'histoire de la France libre ou de la résistance. On parle de la France libre, de la résistance et aussi de la déportation politique, c'est-à-dire celle qui a touché les résistants. C'est les trois thèmes du musée. Mais c'est véritablement à travers l'individu, donc à travers le parcours individuel des compagnons. On rentre dans cette histoire par l'engagement individuel, le destin, le choix de vie. Et à travers quand même des objets qui sont... on a les vêtements de Jean Moulin, un uniforme du général Leclerc, le poste de radio sur lequel les habitants de l'île de Sein ont entendu le discours de Gaulle le 22 juin, donc le deuxième discours. Vous voyez, ce genre de choses, des brassards, des armes, des traces que l'action a existé, des preuves que l'action a existé. Et alors, on a aussi une salle qui est dédiée à De Gaulle, qui est probablement le lieu au monde où il y a le plus d'objets patrimoniaux du général de Gaulle présentés, parce que le lien entre De Gaulle et ses compagnons était extrêmement fort, à tel point que seuls les compagnons de la Libération ont eu droit à la demande du général, par exemple à venir à ses obsèques à Colombey, les deux églises, en novembre 1970.
Oui.
Et il y a des films aussi, est-ce qu'il y a des... Vous avez des, alors dans des projections
dans l'exposition dont on parle, là, on a un film anglais formidable de 1946 qui s'appelle Now It Can Be Told, ça veut dire Maintenant on peut le dire, et qui montre la formation des agents, leurs opérations avec des vrais agents qui jouent le rôle, c'est une histoire un peu... on voit vraiment tous les stades de la formation, donc c'est des petits extraits. Et en conclusion de l'exposition, on a des témoignages de 7 de ces compagnons de la Libération qui ont été des agents clandestins et qui racontent un peu leur expérience, le recrutement, le départ en mission, les risques de la clandestinité, la mort.
Vous avez Cordier, bien sûr.
Oui, absolument, il y a Cordier.
Merci Vladimir Trouplin d'être venu sur Sud Radio. Alors je précise que le catalogue de cette exposition est publié aux éditions Hermann, dit-on. Remarquable, il se lit comme un vrai livre d'histoire. Alors chers auditeurs, ne ratez surtout pas cette exposition. Donc elle a lieu, je le répète, au Musée de l'Ordre de la Libération à Paris jusqu'au 16 octobre. Autre événement incontournable, celui-ci a lieu ce week-end, et c'est à Saumur, c'est les journées donc du livre et du vin. De nombreux auteurs,
important,
donc, très important effectivement, de nombreux auteurs donc sont attendus: Yann Kefelec, Eric Orsena, Bernard Werber, Cali, Anthony Delon, Jacques Pradel, Régis Varnier et surtout Alain Baraton, qui est donc le parrain de cette 26e donc édition, qui est placée cette année donc sous le signe de la nature. Et donc ce fameux jardinier du château de Versailles sera notre invité, André Berkoff, donc la semaine prochaine sur Sud Radio. Vendredi prochain, il sera avec nous en direct de 13h à 14h. Tout de suite, eh bien, vous retrouvez Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Donc, l'hypersensibilité, est-ce un handicap ? Réponse dans un instant avec le pédopsychiatre Stéphane Clerget.